Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour l'émission européenne de l'Europe Direct Strasbourg, diffusée sur Radio Judaïka Strasbourg et RCF Alsace. Et pour cette émission, nous sommes à Saverne, dans le cadre de la première édition de l'Académie Louise Weiss, une école d'été dédiée à la paix et au fédéralisme, organisée par le Mouvement Européen France, les Jeunes Européens France et l'Union des Fédéralistes Européens, qui a lieu au Château des Rohans à Saverne. Pendant 3 jours, chercheurs, experts, jeunes Européens et grand public se sont retrouvés pour réfléchir ensemble à ce que peut être la paix aujourd'hui. Pour cette émission spéciale, nous vous proposons une rencontre avec Bertrand Badi, politologue, spécialiste des relations internationales et auteur du livre « L'art de la paix » publié aux éditions Flammarion, qui a ouvert cette session de l'Académie avec une conférence magistrale sur ce sujet. Mais avant cela, pour comprendre ce qu'est cette Académie Louise Weiss et pourquoi elle se tient ici à Saverne en Alsace, place à Hervé Moritz, président du Mouvement Européen France.
Alors, cette Académie Louise Weiss, c'est la première édition d'une école d'été qu'on a dédiée à la paix et au fédéralisme et qu'on organise à Saverne. Pourquoi Saverne ? Parce que c'est la ville qui a été désignée légataire universelle de l'héritage de Louise Weiss. Donc, Louise Weiss y a déposé ses objets personnels qui témoignent de l'ensemble des engagements de sa vie, ses engagements pour la paix, pour les droits des femmes, pour l'Europe, aussi pour la reconnaissance des droits des peuples dans le monde. Et on avait envie de s'intéresser à tous ces combats et plus globalement à la problématique de la paix aujourd'hui.
Hervé Maurice nous en dit plus sur l'objectif de cette initiative.
Le but, c'est de proposer à des jeunes qui s'intéressent à ces sujets, qui ont envie de se former aussi un petit peu, de découvrir, de rencontrer des chercheurs, des experts, des personnes qui travaillent peut-être dans les organisations internationales, de pouvoir les rencontrer pour échanger, pour se forger aussi, construire un peu leurs idées, leurs réflexions sur les enjeux de la paix aujourd'hui. Donc ça permet à ces jeunes de cheminer. Et donc là, on accueille 70 participants qui viennent d'un peu partout en Europe. Et puis, on ouvre aussi certains temps, certaines sessions au grand public, donc des Savernois, des personnes de la région qui viennent écouter ces conférences, échanger avec les intervenants, parfois échanger aussi autour d'une dédicace ou d'un livre, et pour elles aussi aborder les grands enjeux des relations internationales, la question de la paix aujourd'hui, comment on peut peut-être penser différemment la paix pour la réaliser vraiment à travers le monde.
Au cœur des échanges et des débats, la paix.
Quand on parle de la paix, on parle des grands enjeux globaux aussi, la question de la justice à l'échelle internationale, la question des inégalités sociales à l'échelle internationale, le réchauffement climatique. Il y a énormément d'enjeux qui sont liés aussi au déclenchement de certains conflits dans le monde. Cette question de la paix, c'est une question qui reste une question connexe, supérieure, en fait, qui permet d'aborder ensuite des thématiques connexes. Et je pense que c'est, non, au contraire, une question qui restera vraiment le thème de cette école d'été. Mais je pense que la question centrale reste toujours la paix. Et c'est vraiment l'idée de construire cette régularité avec une école d'été annuelle ici à Saverne, qui était aussi une sorte de laboratoire de paix et de construction de l'Europe au XXe siècle.
Et pour prolonger cette expérience, au-delà du week-end, une publication est également prévue, une manière de garder une trace, de faire vivre les réflexions engagées.
On prévoit de publier une revue qui sera éditée dans les prochains mois pour reprendre les conférences, partager aussi des impressions, des recensions, des petits billets d'opinion de la part des participants aussi, parce qu'on avait envie qu'ils soient vraiment acteurs aussi, de pas simplement passifs, mais qu'ils puissent vraiment prendre part à ces débats, et donc de peut-être signer aussi l'un ou l'autre article. Et donc on publiera cette revue à la fin de l'année 2025, pour toujours garder une trace aussi des échanges, de l'apport des intervenants, des conférences des intervenants, et aussi des impressions des participants, de ce qu'ils ont appris, peut-être comment ça a permis de faire cheminer leur réflexion, leur pensée. Et voilà, ce sera le moyen un peu de résumer, de synthétiser cette Académie Louise Weiss 2025.
Nous vous proposons de poursuivre cette émission avec Bertrand Badi, spécialiste des relations internationales, politologue et auteur de l'ouvrage « L'art de la paix ».
Bonjour Bertrand Badi, vous êtes professeur émérite à Sciences Po, spécialiste des relations internationales, et vous ouvrez cette académie avec une conférence sur l'art de la paix. Merci d'être avec nous. Alors dans votre livre, L'art de la paix, qui sera le sujet de la conférence d'ouverture de l'Académie Louise Weiss, vous écrivez que la guerre est mieux pensée que la paix. Pourquoi avons-nous tant de mal à penser positivement la paix au-delà de la simple absence de guerre ?
Ben, on tombe tout de suite dans l'intimité de notre histoire, l'intimité de notre histoire européenne, qui va devenir à la fin du 19e siècle euro-américaine et englober ce que l'on appelle l'hémisphère nord. Lorsque dans ce monde euro-américain s'est constitué l'État moderne, on est à la Renaissance, immédiatement on a compris que cet État avait un lien très fort et très intime avec la guerre et non pas avec la paix. Vous savez, Machiavel avait écrit, on est au XVIe siècle, un ouvrage qui va faire autorité dans cette politique moderne en construction, disant que le seul art qu'un prince doit parfaitement maîtriser, c'est l'art de la guerre. Il n'a pas dit que c'est l'art de la paix, il a dit que c'est l'art de la guerre. Pourquoi ? Parce que notre État européen, il s'est construit grâce à la guerre, par la guerre, et hélas pour faire la guerre. La raison en est très simple. Cet État qu'on a inventé à la Renaissance, c'était l'aboutissement de la souveraineté. Et lorsque deux souverains se regardent et qu'ils ont un différend entre eux, ils n'ont pas d'autre choix que de se taper dessus pour résoudre ce différend. Et peu à peu, pour reprendre la formule du philosophe anglais Hobbes, qui est de la même époque, un petit peu plus tard, on est cette fois-ci au XVIIe siècle, eh bien, l'homme nous disait que les États ne sont entre eux que des gladiateurs. Et malheureusement, l'histoire moderne de l'Europe a inventé l'histoire de la compétition. Et quand on est en compétition, on est en guerre. Et quand on cesse de faire la guerre, ce n'est que pour préparer l'autre guerre. Et d'ailleurs, on nous parle d'entre-deux-guerres, on nous parle jamais d'entre-deux-paix. Et du coup, la paix est réduite à la portion congrue, c'est-à-dire la suspension de la guerre. Et on a beaucoup de mal à rattraper tout cela, y compris aujourd'hui, alors que une fois je faisais une conférence en Afrique, à Conakry, et je disais cela, que la paix a été définie dans notre philosophie politique et notre théorie des relations internationales comme étant la non-guerre. Et à ce moment-là, un jeune Peul de 20 ans, 25 ans, grand maximum, s'est levé et dit « Mais non, chez nous, en langage poulard, la paix, ça veut dire la santé du groupe. » Voilà une définition positive à laquelle nous ne pensons pas. Et si on glisse vers le Proche-Orient qui est si ensanglanté aujourd'hui, en langue arabe, « salam », c'est aussi la santé, et en hébreu, « shalom », c'est également la santé. C'est notre histoire euro-américaine qui a fait de la guerre le pivot de nos relations internationales. On n'arrive pas à s'en défaire. Alors des gens de bonne volonté veulent effectivement arrêter ces guerres, mais il est toujours question de cesser le feu et d'arrêter les guerres. Il n'est jamais question de construire la paix en profondeur.
Mais s'il y a bien une organisation qui a essayé de construire la paix, en tout cas dans son but, c'est l'Union européenne. D'où ma question. La construction européenne est souvent présentée comme un modèle unique de réconciliation. On parle notamment de la réconciliation franco-allemande. Est-ce encore, selon vous, un récit mobilisateur aujourd'hui, ou ce modèle est aujourd'hui en crise ? Et je pensais aussi à ce que vous dites aussi dans votre livre, on insiste souvent sur l'importance d'écouter les vaincus, les oubliés, et là on les a écoutés les vaincus, puisqu'on s'est même réconciliés. Est-ce que c'est un modèle pour vous ?
Alors bien sûr que c'est un modèle, et bien sûr que la construction européenne, d'ailleurs j'aime mieux dire l'intégration européenne, parce que l'intégration c'est un vocabulaire de paix, on y reviendra peut-être tout à l'heure, cette histoire européenne en tous les cas, post-1945, c'est une histoire extraordinairement positive, mais c'est davantage la consécration de la non-guerre que celle de la paix. L'Europe qui a été construite, alors prenons des étapes connues, concrètes, les traités de Rome 1957, cette Europe à 6 que j'ai connue dans mon enfance, cette Europe-là, elle a eu un double succès. C'est effectivement empêcher une troisième guerre mondiale, troisième guerre intestine à l'Europe, et c'est reconstruire une Europe exsangue après l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous comprenez que ces deux succès-là, ce n'est pas des succès de paix, c'est des succès de non-guerre.
Mais il y a quand même eu, je reviens sur mon terme, une construction, une réflexion sur comment on fait pour maintenir la non-guerre, si on veut.
La non-guerre, parce que je ne dis pas que c'est perdu, et je vous dirais même que l'intégration européenne, si elle réussit, ce qui n'est pas encore absolument évident, sera nécessairement un facteur de paix. Mais pour l'instant, elle a réalisé avec succès sa première étape, la non-guerre intérieure. Reste maintenant deux vertus que l'Union européenne n'a toujours pas pour construire la vraie paix. D'abord, de donner un sens positif à l'idée d'intégration. Et pour moi, ça suppose de passer de l'association qu'elle était et qu'elle est encore à la solidarité. La découverte de la solidarité entre Européens, c'est pas encore tout à fait réussi. Donc la paix n'est pas tout à fait atteinte. Il y a eu des moments, moi j'ai été très reconnaissant à Angela Merkel, par exemple, en 2020, d'avoir mutualisé la dette européenne liée en particulier
en partie après le Covid.
Au Covid, pas après, en plein dedans, hein, et même plutôt au début. Ça, c'était l'étape 2. C'est-à-dire, effectivement, c'est aller au-delà de la non-guerre pour créer la vraie solidarité qui commence à donner une idée positive de la paix. Et puis, il y a le deuxième aspect, et là, je trouve qu'on n'avance pas beaucoup, qui est, attendez, l'Europe, elle n'est pas seule au monde. La vraie paix, elle se construit avec tout le monde. La paix ne peut pas produire des exclusives. S'il y a la paix, c'est la paix de tous. Si un seul acteur, j'allais dire un seul humain des 8 milliards qui peuplent la planète est exclu de la paix, alors on est encore dans la guerre ou dans la non-guerre. Et là où l'Europe ne marche pas, ou ne marche pas suffisamment en tous les cas, c'est qu'elle ne sait pas construire un rapport aux autres. C'est-à-dire, l'Europe n'a jamais vraiment compris la mondialisation. On le voit quantité, par exemple, cette attitude inhumaine et guerrière à l'égard de la migration. C'est ça, on n'est pas dans la paix, on est dans la guerre. Hein. Cette espèce de bilan décevant et régressif d'aide au développement et à la coopération. Cette incapacité de penser des partenariats avec les puissances émergentes, Brésil, Inde, Afrique du Sud, Afrique en général, etc.
On pourrait aller sur le sujet du Mercosur aussi, qui ne sera...
Voilà. J'allais le dire.
Mais on voit bien que c'est très ambivalent. Moi, je pensais aussi à deux choses, peut-être, mais qui sont en lien. C'est par exemple l'idée que effectivement, l'Union européenne se veut aussi comme une puissance normative. Et en même temps, est-ce que ça peut être un élément de puissance de paix ou pas? Le fait que l'Union agisse comme puissance de paix à l'échelle mondiale parce qu'elle a des normes, parce qu'elle a des valeurs qu'elle essaie de défendre. Est-ce que ça marche?
Alors, dans l'absolu, c'est évident. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mondialité pacifique sans des normes universelles qui la structurent et qui l'organisent. Mais elle se vante un peu, l'Europe, ou certains Européens, n'est-ce pas, lorsque elle se dit le bastion des normes, alors que l'Europe n'a cessé de piétiner le droit international qu'elle a elle-même fabriqué. L'épisode colonial et postcolonial est un exemple terrible.
Mais est-ce qu'on dit que c'est les États ou est-ce que c'est l'organisation, là?
Ce sont des États de l'Union européenne, d'abord, mais je n'ai pas vu ni entendu l'Union européenne, ou ce qui était d'ailleurs à l'époque des guerres coloniales, la communauté européenne, je n'ai pas vu ni entendu celle-ci prendre une position ferme sur le sujet. Et puis deuxièmement, et là je crois que vous mettez le doigt où ça fait mal et où peut-être un jour ça fera du bien. C'est-à-dire qu'une norme n'est acceptable que si elle est universelle. Et l'universel n'est crédible qu'à partir du moment où il est le fruit d'une décision de tous. C'est-à-dire que la faiblesse de l'Europe, c'est de dire ben, « j'ai inventé à moi toute seule l'universel ». Et ça, ce n'est pas admissible. C'est pas admissible sur un plan éthique, philosophique, etc., mais c'est pas admissible sur un plan sociologique. C'est-à-dire, quand vous parlez avec les personnes les mieux intentionnées d'Asie et d'Afrique, ils vous disent, mais attendez, si vous voulez quelque chose d'universel, moi, il faut que j'y participe. Il n'y a pas de plus beau texte dans l'absolu que la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Mais la commission qui l'a préparée, elle était composée presque exclusivement d'occidentaux. Et quand je dis presque exclusivement, c'est qu'il y avait un Chinois, mais qui a été formé dans les universités américaines, et un Libanais qui était maronite, c'est-à-dire de cette fraction de la population libanaise qui est la plus exposée à la socialisation occidentale. Donc, il y a là quand même quelque chose. Moi, j'aimerais que l'Europe redécouvre l'humain. On n'y est pas vraiment.
Alors, ça me fait penser. Moi, je reste un peu sur la thématique. Cette fois-ci, je pense aux élargissements. Les élargissements, c'est un sujet aujourd'hui de l'Union européenne. On dit souvent que les élargissements sont plus ou moins bloqués par des process qui sont quand même très, très, très compliqués et très lourds. Est-ce que vous pensez que les élargissements passés aux pays d'Europe centrale, notamment à quelques pays des Balkans, ont renforcé la paix en Europe ? Et que l'élargissement, par exemple, maintenant à l'Ukraine, dont on parle, puisque l'OTAN, on va dire que ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour, ou en tout cas beaucoup plus complexe, mais que l'élargissement à l'Ukraine, voire la Moldavie, pourrait jouer ce rôle de paix.
Vous savez, moi, je crois, dès qu'on construit une communauté, et l'Union est censée être une communauté, que cette construction communautaire, cette intégration, comme je disais tout à l'heure, n'est possible que sur une base contractuelle. D'ailleurs, la grande philosophie politique moderne, et pas seulement occidentale, hein, vous la retrouvez par exemple dans la philosophie arabe, repose sur cette idée de contrat. C'est-à-dire, on s'entend d'égal à égal et à parité sur un projet que l'on veut commun. L'ambiguïté de l'élargissement à l'Europe centrale et orientale, ou PECO, comme on disait à l'époque, tient probablement à la vitesse, à la rapidité et à l'inattention. Dans la précipitation liée à l'euphorie de l'effondrement du système soviétique, on a brûlé des étapes. C'est-à-dire, on n'a pas pris le temps de se contractualiser. On parlait des traités de Rome tout à l'heure. Les traités de Rome, ils sont à 1945 plus 12. Si on prend l'élargissement, on n'est même pas à la moitié de ce délai. Et l'écart qu'il y a entre des États issus de ce qui était le bloc libéral, démocratique, occidental et de ce qui est le bloc soviétique était extrêmement important. Finalement, beaucoup plus que ce qui paraît séparer la France de l'Italie ou même de l'Allemagne. Donc, ce travail d'élargissement que j'ai vécu en direct de par ma génération, il a été bâclé. Donc, le contrat est ambigu. Donc,
moi, c'est ce qu'on pourrait dire par rapport à la Hongrie aujourd'hui, parce que voilà, c'est un pays qui finalement ne respecte pas les valeurs.
C'est un régime, en tous les cas. Je ne jetterai pas la pierre à la Hongrie. D'ailleurs, on a vu comment le maire de Budapest a fait preuve de courage.
Comme quand je disais Hongrie, je pensais oui, c'est un seul
mot pour la politique. Oui. Mais en même temps, et ce sur quoi je suis totalement d'accord avec vous, Orban n'est pas un accident de l'histoire. D'abord, c'est un homme qui a été élu, réélu, qui appartient à ce courant national populiste qui n'est pas l'exclusivité de la Hongrie, mais dont fondamentalement, on s'aperçoit qu'il n'est pas contractuel. C'est-à-dire, il n'y a pas un contrat social européen qui rende même tolérable l'ordre que représente M. Orban ou que pourrait demain représenter Mme Wieder ou pourrait représenter Mme Le Pen si elle arrivait au pouvoir en France. Donc il y a là quelque chose de très compliqué parce qu'en même temps, c'est mon explication par la précipitation n'est pas suffisante puisque je montre que c'est une pathologie qui peut atteindre même les vieux pays européens. Mais en tous les cas, ça montre que l'on ne sait pas suffisamment montrer et définir ce qu'est l'identité politique, non pas ethnique comme on le dit trop vite, mais politique de l'Europe. Et qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables.
Et si on part alors sur l'actualité, plus sur l'Ukraine, est-ce que ce serait facteur de paix ou il ne faudrait pas aller trop vite là aussi ?
Alors l'Ukraine, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qui dépasse, je dirais, l'histoire de la construction européenne, hein, par définition. Je pense que l'Ukraine, c'est d'abord un pays souverain qui a été agressé par un voisin beaucoup plus fort que lui. Vous savez, la guerre, aujourd'hui, ce n'est plus comme hier. Hier, la guerre, c'était opposer des états de puissance équivalente. Hein, la guerre entre la France et l'Allemagne, la France et l'Angleterre, ou l'Espagne, bon, etc. L'Empire. Donc, le conflit russo-ukrainien, c'est un conflit inégal, du fort contre le faible. Et le faible a résisté. Et le fort a perdu. Puisqu'au bout de plus de 3 ans, le fort, il ne contrôle que 18% du territoire ukrainien. Bon. Mais on n'a probablement pas pris la mesure de ce qu'était la gravité d'une agression et d'une conquête, au sens classique du terme, et le succès phénoménal de la résistance sociale ukrainienne. Mais derrière cela, il faut toujours essayer de comprendre en relations internationales pourquoi le tsar Poutine s'est comporté de la sorte. Pour renforcer sa popularité, renforcer son propre pouvoir, en jouant à fond sur l'argument nationaliste et de la puissance restaurée. Vous savez, Poutine, il avait inventé le « Make Russia Great Again » avant l'autre aux États-Unis. Hein, et il a tout misé de sa vie politique sur la restauration de la puissance russe. Ça a été un poison, que de laisser un acteur du jeu européen restaurer par la force et la violence sa puissance passée et perdue. Donc il faut d'une part contenir cette agression. Et l'Europe, d'ailleurs, s'est relativement bien conduite de ce point de vue-là. Je pense qu'il n'y a pas de reproche à lui faire. Il n'y aurait pas la même chose des États-Unis aujourd'hui.
On le dit peu, hein, mais que c'est quand même l'Europe qui soutient le plus l'Ukraine.
Mais là même, ça ne suffit pas. Parce que, encore une fois, moi, je suis pour la paix et pas pour la non-guerre. C'est-à-dire, la non-guerre, c'est effectivement dissuader Poutine d'agresser son petit voisin, je dirais, et c'est l'arrêter dans sa fureur conquérante. Mais la paix, c'est la coexistence, nous explique Aristote. Et il faut créer les conditions d'une coexistence en Europe. Le mur est tombé, le système soviétique s'est effondré, et on a cru qu'on pouvait continuer comme avant. C'est-à-dire que les accords d'Helsinki de 1975 pouvaient, qui ont été conclus en pleine bipolarité, pouvaient organiser, une fois rafistolé, une fois posé quelques rustines,
Maintenir l'OTAN aussi comme...
Maintenir l'OTAN, ce qui est une absurdité. D'ailleurs, la conférence de l'AE récemment a montré le paroxysme de l'absurdité jusqu'à ce secrétaire général qui va appeler M. Trump « papa ». J'en avais honte en tant qu'Européen. Mais tout ça est absurde. Donc ce qu'il faut faire pour penser la paix, c'est penser la coexistence dans l'Europe du troisième millénaire, en tout cas du 21e siècle. Et pour ça, il faut un Helsinki 2, il faut une grande conférence sur la sécurité européenne.
Et pour conclure, vu qu'on est à un événement qu'on appelle l'Académie Louise Vest, où des jeunes seront là pour vous entendre aujourd'hui, pour parler de la paix, enfin, que diriez-vous à ces jeunes Européens réunis ici à Saverne? Quel rôle peuvent-ils jouer dans la construction d'une paix?
Alors, ça tombe bien que ce soit la conclusion, parce que vous allez voir que je suis optimiste dans cette affaire. Les jeunes, ils comprennent tout ça parfaitement. Moi, vous savez, quand on est prof, on vit pendant 40 ans avec des jeunes de 20 ans. Et je n'ai jamais eu aucun mal pour faire passer ce discours de paix, parce que les jeunes, ils sont dans le monde, là où les vieux, ou en tous les cas celles et ceux de ma génération, sont dans des nations. Et quand on est dans des nations, nécessairement, et on le sait depuis fort longtemps, on est dans une logique de guerre. Donc, quand on est dans le monde, on est dans une logique humaine, c'est-à-dire on se définit comme humain, et quand on se définit comme humain, on tient la paix pour beaucoup plus utile, économique et avantageuse que la guerre. Alors que quand on est dans une logique d'appartenance nationale, on a tendance à considérer que sinon la guerre, du moins la compétition, mais la guerre c'est la compétition paroxystique, c'est dans la nature des choses. Ça, les jeunes le comprennent parfaitement. Ce que je leur dis, c'est de cultiver cette idée, ce sens de la mondialité, ce sens de l'humain, ce sens de l'intégration.
Ben merci Bertrand Badi pour nous avoir consacré du temps. Avant, hein, je précise, avant la conférence que vous allez tenir, la conférence d'ouverture de cet événement, je rappelle que vous avez publié L'Art de la Paix aux éditions Flammarion, si je ne me trompe pas, et donc on peut retrouver toutes vos pensées, toutes vos idées sur comment faire la paix, une vraie paix. Merci beaucoup.
Merci à vous.